Vous écoutez On lit pour vous.
Thelma Golden, le musée est un espace où des discussions complexes peuvent avoir lieu. Des propos recueillis par Anuliina Savolainen, paru le 2 juillet 2026, dans le courrier de l'UNESCO. Fermé pendant 7 ans pour travaux, le Studio Museum de Harlem a rouvert ses portes en novembre 2025. Dans un cadre entièrement repensé, cette institution new-yorkaise, créée en 1968 pour mettre en valeur les artistes de descendance africaine, donne à voir la richesse de la pratique artistique noire du 19e siècle jusqu'à nos jours. Pour Thelma Golden, sa directrice depuis 2005, ce nouveau bâtiment reflète parfaitement la vocation du Studio Museum, conçu comme un lieu vivant, multiple, ouvert sur ce quartier emblématique de la culture noire américaine et sur le monde. Le bâtiment, qui abrite les collections du Studio Museum, a été entièrement reconfiguré. En quoi ces transformations rencontrent-elles la mission de cette institution? Dès le départ, lorsque nous avons envisagé la manière dont ce nouveau lieu pourrait se déployer, la communauté de Harlem a été au cœur de nos préoccupations. Cela se manifeste de plusieurs façons, à commencer par la conception même du bâtiment, qui reprend le langage architectural de Harlem, les volumes imposants des lieux de culte, l'animation des rues, la convivialité des perrons, ainsi que la dignité sobre des fenêtres et encadrement de portes. Cet espace a été mis au service de notre mission, qui consiste à soutenir les artistes de descendance africaine et servir de lieu de rencontre. Les visiteurs peuvent ainsi circuler librement entre les expositions, les activités éducatives et les espaces publics. Cette démarche, qui reflète la nature profondément interconnectée de l'art et de la communauté, est au cœur de cette institution depuis sa création. Nous avons également demandé aux architectes de concevoir un bâtiment qui renforcerait la porosité entre le musée et le quartier grâce à des espaces publics pouvant accueillir des événements locaux, des projections ou encore des programmes éducatifs. Au rez-de-chaussée, une fenêtre à double hauteur efface la frontière entre l'agitation de la rue et l'intérieur des murs. Par ailleurs, un large perron descend vers le niveau inférieur du musée, créant un vaste espace public modulable qui le rend aussi ouvert et accessible que possible depuis la rue. Enfin, depuis la terrasse située sur le toit, on peut admirer les toits qui s'étendent vers le nord et le sud. L'idée est que les visiteurs aient le sentiment d'être au cœur d'Harlem. Le musée collecte, préserve et interprète des œuvres créées par des Afro-Américains, des membres de la diaspora africaine et des artistes du continent africain. Comment ces collections historiques interagissent-elles avec des œuvres plus contemporaines? Ce qui est extraordinaire avec notre nouveau bâtiment, c'est l'espace dont nous disposons désormais pour présenter une grande diversité d'œuvres. Pour notre réouverture, il nous semblait important de consacrer une vaste partie de notre nouvelle maison à la présentation de notre collection permanente. Avec ses quelques 9000 pièces qui s'étendent du 19e siècle à nos jours, elle révèle en effet l'immense richesse de la pratique artistique noire à travers le temps. En témoigne l'exposition « From Now, a Collection in Context », qui se déploie et va évoluer tout au long de l'année. Elle rassemble des œuvres d'artistes telles que Lorraine O'Grady, icône de l'art conceptuel dans les années 1980, de James Van Der Zee, photographe de la Renaissance de Harlem dans les années 1920, du plasticien David Ammons ou de la peintre engagée Faith Ringgold. Grâce à la rotation constante des œuvres, nous pouvons mettre en lumière les nombreuses façons dont les artistes de descendance africaine ont dialogué entre eux et avec le public, intentionnellement ou non. Cela peut se manifester à travers des idées, des intérêts et des convictions partagées ou encore par des matériaux et des pratiques communes. L'idée est que les visiteurs soient inspirés par des œuvres qui s'inscrivent dans une continuité créative essentielle à la compréhension de notre histoire commune. Comment s'inscrit ce nouveau bâtiment dans le Harlem d'aujourd'hui? Harlem est un quartier vivant, en perpétuel changement. Malgré les transformations qu'il a connues, il reste l'âme géographique et spirituelle de la culture noire, portée par des sites culturels comme le National Black Theatre, l'Apollo Theatre, le Center Schomburg pour la recherche sur la culture noire, le Dance Theatre ou encore le Musée national du jazz. C'est un privilège pour le Studio Museum de faire partie de cet incroyable réseau d'organisations qui documente, célèbre et veille sur les habitants, les traditions et l'histoire du quartier. Quant à sa relation avec le quartier, les fondateurs nous ont offert un cadeau précieux. Ils ont inscrit la mission de l'institution dans son nom même, le Studio Museum in Harlem. Ce choix décisif nous permet d'être un trait d'union entre le passé et le présent et de rester constamment impliqués dans la vie des habitants. C'est dans cet esprit que nous concevons une grande partie de nos programmes, en particulier ceux qui sont organisés hors les murs. Grâce à notre série « In Harlem », lancée de 2016 à 2022, nous avons ainsi apporté l'art dans les espaces publics du quartier. Par ailleurs, nous organisons des programmes éducatifs avec de nombreuses organisations et écoles locales. Même si le monde autour de nous évolue, une chose demeure: nous sommes une maison pour les artistes de descendance africaine tournée vers la communauté de Harlem. Vous avez décrit le musée comme un lieu essentiel de dialogue. Comment une institution culturelle s'ouvre-t-elle pour devenir un espace de rencontre? Au-delà des œuvres elles-mêmes, ce que je préfère dans un musée, c'est que les visiteurs puissent rencontrer l'art, mais aussi se rencontrer les uns les autres. Lorsqu'on traverse les différentes salles, on peut entendre les visiteurs échanger leurs opinions sur les œuvres exposées, voir des artistes absorbés dans des discussions autour de la création artistique ou croiser des élèves de tous âges en train de créer dans nos ateliers pédagogiques. Cette mission a été inscrite dès 1966 dans un document qui définit les principes programmatiques de notre institution. Nos fondateurs y écrivaient que le Studio Museum de Harlem doit être un musée vivant, un lieu non seulement pour regarder, mais aussi pour travailler, apprendre et créer. Cette ambition a été portée dès l'origine par un groupe d'artistes, de militants, de philanthropes et d'habitants de Harlem désireux d'offrir une visibilité aux artistes de descendance africaine dans les musées, les galeries et le monde universitaire. Leur démarche reste une référence dans notre manière de concevoir les espaces, avec la conviction profonde que notre musée est un lieu où des discussions complexes peuvent avoir lieu autour de l'art, de la vérité et de la démocratie. Votre carrière semble avoir bouclé une magnifique boucle depuis vos débuts, en 1987, au Studio Museum, en passant par une décennie d'expositions marquantes au Whitney Museum of American Art, jusqu'à votre retour au Studio Museum de Harlem en 2000 et votre nomination comme directrice en 2005. Quand avez-vous su que vous vouliez consacrer votre vie au monde de l'art? À l'école primaire déjà, je savais que je voulais travailler dans un musée. Cette ambition précoce, je la dois à mes parents. Tous deux étaient New-Yorkais. Mon père venait de Harlem et ma mère de Bedford-Stuyvesant à Brooklyn. Et ils considéraient cette ville comme un lieu qui leur appartenait pleinement. Ils ont tout fait pour me transmettre ce sentiment. J'ai grandi en visitant tous les musées de la ville, en assistant à des pièces de Broadway et à des spectacles dans les lieux emblématiques des arts de la scène. Une fois au lycée, j'avais en tête de devenir commissaire d'exposition. Mon projet s'est précisé lorsque j'ai compris que mon rôle serait de créer des espaces pour les artistes noirs et la culture noire. Au cours de mes 40 années dans ce domaine, je n'ai jamais dévié de cette trajectoire. C'était Thelma Golden. Le musée est un espace où des discussions complexes peuvent avoir lieu. Des propos recueillis par Anuliina Savolainen, paru le 2 juillet 2026 dans le courrier de l'UNESCO.
Une application de cuisine vegan québécoise qui s'exporte. Un texte d'Alain McKenna, paru le 29 juin 2026 dans la presse. Éline Bonnet est une chef française établie au Québec et elle partage ses recettes véganes sous plusieurs formes depuis 2015. Site web, livres et applications mobiles. Maintenant que sa petite entreprise semble bien établie dans la province, elle tourne son regard vers l'international. Pourquoi patates et cornichons? Les personnalités les plus en vue de la cuisine au Québec sont peut-être Ricardo Larrivé et Marie-Lou Bourdon, mais il existe d'autres façons de se faire une place dans ce domaine. Éline Bonnet et Kevin Barallon ont trouvé un filon prometteur du côté de la cuisine végane et des recettes pour toute la famille simples à réaliser. Au quotidien, Éline Bonnet est la chef cuisinière et Kevin Barallon est le programmeur. Ils sont tous deux véganes. Leur rencontre a mené à la création en 2015 d'un site web de recettes qui mettait à profit leur expertise respective pour promouvoir leurs préférences culinaires. Le projet a évolué avec le lancement, il y a environ un an et demi, d'une application mobile. Éline et Kevin ont mis sur pied le répertoire en ligne de recettes véganes « Patates et cornichons », qui est aussi une application mobile. Une chaîne YouTube peut être trouvée sous le même nom ou sous « Éline's Table » en anglais. La table d'Éline est le nom d'un livre de recettes que la jeune chef a lancé à l'automne 2025. L'application est le cœur des activités des deux jeunes entrepreneurs. Elle aide ses utilisateurs à planifier et à cuisiner les repas de la semaine, ciblant les familles qui manquent de temps, ont des difficultés à faire manger les enfants ou craignent des carences nutritionnelles. Elle propose des solutions pour des repas simples et rapides. Chaque nouvelle recette intègre une vidéo pour chaque étape, particulièrement utile pour les personnes qui se sentent dépassées en cuisine ou qui peinent à suivre une recette traditionnelle. Elle attire aussi son lot de curieux, des gens pas nécessairement véganes, mais qui désirent diversifier leur alimentation. La majorité des utilisateurs qu'on a, on s'est rendu compte, en fait, qu'ils n'étaient pas nécessairement véganes, dit Éline Bonnet. Des gens en transition, végétariens ou simplement intéressés. On a aussi des parents dont leur enfant est vegan et qui veulent apprendre à cuisiner vegan pour recevoir. On a beaucoup d'omnivores qui essayent de manger bien et qui essayent de manger varié, de se faire plaisir. La formule semble faire mouche. L'application compte quelques 50 000 téléchargements, principalement auprès d'un public francophone au Québec et en France. L'ambition d'Éline et de Kevin est désormais de s'étendre à l'international, notamment vers les marchés anglophones comme les États-Unis et le Royaume-Uni et d'autres pays où la cuisine végane est populaire, comme l'Allemagne. Entre Ricardo et Marie-Lou, Éline a donc choisi l'international. Végane, pas végane. Parlant de Marie-Lou, une expérience tentée par la créatrice du site trois fois par jour en début d'année a eu un certain écho du côté d'Éline et de Kevin. Marie-Lou avait publié des recettes véganes sans le dire et elle a eu de très bonnes réactions du public à partir du moment où elle ne précisait pas que c'était végane, dit Éline Bonnet, qui a décidé elle aussi de retirer la mention « végane » de son application sur l'Apple Store pour plutôt mettre en avant la planification de repas et la nutrition. Elle croit ainsi rejoindre plus de personnes. Tout le monde est content de manger plus de plantes, plus de fibres, des protéines complètes, dit-elle. Ma cuisine, poursuit-elle, s'articule beaucoup autour des ingrédients complets, comme les légumineuses qui peuvent être assez mal aimées. Souvent, on ne sait pas trop comment les cuisiner, alors que c'est super polyvalent. Je fais des recettes qui sont faites pour les apprivoiser. La table d'Éline est donc composée de recettes qui mettent en valeur, plus ou moins officiellement, des haricots noirs, des haricots blancs, des pois chiches, jusque dans des mets plus sucrés. Ils sont parfois masqués parce que moi, à la base, je détestais ça. Donc, je faisais beaucoup de recettes autour des boulettes, des pancakes, etc. Au-delà des ingrédients, Éline et son partenaire devront aussi apprivoiser l'intelligence artificielle. Les agents d'IA sont en train de remplacer les moteurs de recherche classiques. Ça change la donne et c'est peut-être une occasion pour Éline Bonnet et Kevin Barallon. Les utilisateurs posent des questions sur notre outil de recherche en langage naturel, pas par mots-clés, dit Kevin Barallon. C'est à nous maintenant de changer la façon dont on reçoit la requête pour bien diriger la personne. Ça risque de bouger rapidement. La hausse de popularité de leur application permet maintenant à ces deux créateurs d'y travailler à temps plein. Au menu, plus de recettes véganes pour plus de gens intéressés à mieux manger dans plus de pays. C'était une application de cuisine végane québécoise qui s'exporte. Un texte d'Alain McKenna, paru le 29 juin 2026 dans la presse.
Prendre le large, un texte d'Émilie Folie-Boivin paru le 8 mai 2026 dans la revue Québec Science. Comme la mer qui apporte des surprises à chaque marée, le musée de la vie marine du Saint-Laurent, Exploramer, fourmille d'activités chaque jour pendant la belle saison. Voici cinq activités issues de la programmation qui valent une pause à cet établissement de Sainte-Anne-des-Monts. Homard au clair de lune. Coup de cœur de la responsable à l'éducation et à la médiation à Exploramer, Charlotte Baron, l'activité est une balade nocturne sur le littoral avec une lampe frontale et plus de sensations fortes qu'en journée, gracieuseté des profondeurs de la nuit. Avec de la chance, il est possible de voir de la bioluminescence, mais ce sont en général les espèces à carapace qui sont au rendez-vous, en particulier les homards qui se pointent la pince, en gang. Un rendez-vous exclusif offert seulement 4 fois au cours de l'été lors des grandes marées. Durée 2 heures. Océanographe 2 jours. Plus geek, mais ô combien chouette quand les sciences de la mer nous passionnent, le laboratoire sur mer donne un bel aperçu d'une journée au large quand on trempe dans la biologie marine. On a la chance de manipuler un filet à plancton, puis d'en voir le contenu à la loupe binoculaire, d'envoyer une sonde CTD, un instrument servant à mesurer la température, la pression et la conductivité de l'eau, et de comparer les résultats du jour avec les données des années passées. Durée 1h30. S'initier à la pêche. Dès 7h, le bateau part avec tout l'équipement nécessaire. Canne à pêche, leurre, main agile d'un guide pour dépecer le poisson à votre place et expliquer les mille et une parties de l'anatomie de vos prises. C'est l'occasion de découvrir les poissons du coin et, si la mer est généreuse, de rapporter le souper et des anecdotes à profusion. Durée 2 heures. Sciences citoyennes et poissons. La navigation, c'est moins votre truc? Il y a quand même moyen d'observer les poissons sans la houle et d'aider la science du même coup. L'activité de cueillette de poissons se veut une balade guidée le long du littoral en direction d'un verveux, un filet de pêche cylindrique compartimenté dans lequel les poissons sont captifs lorsque la marée se retire. Les participants et participantes doivent mettre la main à la pâte, ou du moins au filet, pour recueillir des données sur les prises, qui seront ensuite transmises à Pêche et Océan Canada. Durée 2 heures. Détente à la pénombre. Pourquoi profiter du coucher du soleil en solo quand on peut faire une contemplation de groupe? C'est ce que propose cette excursion relaxante quotidienne. Il n'y a pas vraiment d'animation, mais les guides sont là pour répondre aux questions impromptues pendant l'ultime spectacle de la journée. Durée 1 heure. Ce n'est qu'une partie des activités offertes par Exploramer. Pour en connaître davantage sur les expositions intérieures du musée de Sainte-Anne-des-Monts, exploramer.qc.ca. Ouverture du musée pour la saison, 1er juin. C'était « Prendre le large », un texte d'Émilie Folie-Boivin paru le 8 mai 2026 dans la revue Québec Science.
Semaine des personnes handicapées, rencontre avec une lectrice bénévole. Un texte d'archives de Judith Lucier, paru le 2 juin 2014 dans le journal Métro et diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vues et Voix, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque. Prenez note que cet article publié en 2014 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour. Pour répondre à leurs besoins bien spécifiques, les personnes handicapées font appel à des bénévoles et travailleurs dont le commun des mortels soupçonne à peine l'existence. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées, Métro vous les présente. Aujourd'hui, Madeleine Delpech, lectrice bénévole pour Vues et Voix. Chaque semaine, sauf lorsqu'elle est enrhumée, Madeleine Delpech se rend dans un des petits studios d'enregistrement de l'organisme Vues et Voix. Là, elle reprend, où elle l'avait laissé, la semaine précédente, l'enregistrement d'un livre audio. Depuis 36 ans, elle permet ainsi à des personnes aveugles ou qui éprouvent de la difficulté à lire d'avoir accès à la lecture. Le choix des livres sont faits en fonction des demandes de la grande bibliothèque. Ainsi, Madame Delpech lit sans discrimination les livres qu'on lui attribue, du polar au livre de cuisine. « J'aime tout », affirme-t-elle. « J'aime le roman, j'aime la poésie, j'aime l'histoire. » Seulement, à un moment donné, on avait beaucoup de porno. J'étais tellement gênée que je n'arrivais pas à regarder ma monitrice dans les yeux. La monitrice, c'est la bénévole qui s'occupe du volet technique de l'opération et qui arrête la lectrice lorsqu'elle saute un mot. Mais la dernière fois que Madame Delpech a lu, c'est elle qui s'est arrêtée. Je lisais un livre sur l'accompagnement des mourants. À un moment donné, ma monitrice s'est mise à pleurer. Elle avait perdu son mari récemment. J'ai pris une pause et je lui ai donné des chocolats, raconte la doyenne de Vues et Voix, qui s'entête à appeler son organisation la Magnétothèque, comme dans le temps. Vuzévoir compte sur le talent de 400 bénévoles. Bon an, mal an, Vuzévoir enregistre 800 ouvrages. Ça paraît beaucoup, mais c'est très peu quand on pense que ce n'est qu'à ces documents qu'une majorité de non-voyants ont accès. Il faut dire que Mme Delpech est très attachée à l'institution. Cette Française d'origine était déjà bénévole pour Recording for the Blind lorsqu'elle vivait à New York. Quand elle est arrivée à Montréal en 1976, elle a cherché l'équivalent. Or, la magnétothèque venait d'ouvrir ses portes. J'ai fait les auditions et comme j'avais déjà fait de la radio, ils m'ont prise tout de suite, se souvient-elle. Depuis, plusieurs lecteurs apprécient sa voix réconfortante et son français impeccable. Trop rarement, les lecteurs bénévoles de Vuzévoir ont l'occasion de rencontrer ceux qui bénéficient de leur travail, mais il est arrivé une fois à Madeleine Delpech de pouvoir mettre un visage sur le fruit de son labeur. Une fois, une lectrice de mon quartier a reconnu ma voix, dit-elle. Chacun a son style. Je ne lis pas très vite car j'accorde beaucoup d'importance à la prononciation et à la signification. J'aime faire voir, dit-elle. Or, même si Vuzévoir compte la comédienne Béatrice Picard parmi ses bénévoles, les lecteurs sont bien avisés de garder une certaine neutralité dans leur interprétation. Bien sûr, il ne faut pas se prendre pour Sarah Bernard, mais il faut tout de même y mettre du sien, précise Mme Delpech. À la radio aussi. Vuzévoir, c'est aussi une radio dont le mandat est de rendre accessible la culture et l'information aux non-voyants grâce à des émissions. Par exemple, l'émission Au quotidien fait la lecture des journaux. À livre découvert était, quant à elle, une émission littéraire orientée autour du livre adapté. Toutes les informations peuvent être retrouvées sur le site de Vuzévoir. C'était Semaine des personnes handicapées, rencontre avec une lectrice bénévole, un texte d'archives de Judith Lucier paru le 2 juin 2014 dans le journal Métro et diffusé dans le cadre du 50e anniversaire de Vuzévoir, anciennement connu sous le nom de La Magnétothèque. Prenez note que cet article publié en 2014 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.